Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission pour aujourd'hui, jeudi 30 mai 2019. Vous allez écouter d'abord le journal et nous allons également présenter le commentaire. Et ensuite, vous allez écouter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie, l'arbre suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal et soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture soutient le programme de lutte contre la grippe aviaire du ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Industrie a dit que le Japon voulait renforcer les investissements en Indonésie. Wonderful Indonesia a été promu au millénaire aux Pays-Bas. L'Indonésie et l'Union européenne sont d'accord pour respecter le programme de développement durable 2030. Le ministre du Tourisme veut développer Serang comme tourisme halal. Voici le journal complet. L'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture soutient la Direction générale de l'élevage et de la santé du ministère de l'Agriculture dans la lutte contre la grippe aviaire. Le ministère de l'Agriculture a noté que le nombre annuel de cas de grippe aviaire a diminué de 2751 en 2007 à 476 en 2018. Cette maladie est causée par des virus de la grippe qui s'attaquent à tous les types d'oiseaux domestiques, y compris les poulets, les canards et les cailles, qui causent des taux de mortalité élevés. Iketo Diarmita, directeur général de l'élevage et de la santé animale du ministère de l'Agriculture, a déclaré dans un communiqué de presse mercredi que la grippe aviaire qui pouvait être transmise à l'homme. En Indonésie, le virus de la grippe aviaire existe depuis 2003 et s'est propagé à plusieurs régions en quelques années seulement. Le ministre indonésien de l'Industrie, M. Erlangga Hartarto, a déclaré que la grande entreprise japonaise, telle que Soziet Corporation, veut renforcer leur investissement en Indonésie. Lors de la déclaration à Jakarta mercredi, le ministre Erlangga a souhaité que Sumitomo Mitsui Banking Corporation puisse réaliser des histoires de succès pour les investissements du secteur financier en Indonésie afin d'inviter le secteur financier japonais à accroître ses investissements en Indonésie. Basé sur une enquête de US News qui a identifié 20 pays comme la meilleure destination pour les investissements en 2018, l'Indonésie se classe au deuxième rang de meilleurs pays pour investir. Dans le rapport publié par la Banque mondiale, la Facilité des affaires en Indonésie classait le 73e rang sur 190 pays dans le monde. Ce classement est passé du précédent à la 120e position. Le tourisme indonésien sous la marque Wonderful Indonesia ou la Merveilleuse Indonésie était promu à la foire de Tong Tong à Amsterdam aux Pays-Bas du 23 mai au 2 juin 2019 pour attirer les touristes étrangers millénaires de la région européenne. Nia Niscaya, adjointe du développement du marketing du ministère du Tourisme, a déclaré récemment à Jakarta que sa partie avait participé à l'événement de foire de Tong Tong 2019 en collaboration avec les voyageurs Smarak Rezan et l'ambassade d'Indonésie à La Haye. La participation du ministère du Tourisme de soutenir sous forme de campagne de sensibilisation, de location en terrain, d'achat d'espaces de présentation pour des produits de la connaissance de destinations prioritaires, de décoration de stands et de distribution de matériel promotionnel. Ce festival est le plus grand festival de culture asiatique et indonésienne aux Pays-Bas et cette année est la 60e foire de Tonton. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le ministre de la Planification du Développement National, M. Bambang Brojonegoro, a déclaré que l'Indonésie et l'Union européenne avaient convenu de respecter le programme de développement durable 2030 et objectif de développement durable qui avait été marqué par le lancement du Livre bleu 2019. L'Indonésie a reçu l'aide de développement de l'Union européenne d'un montant de 100 millions d'euros pour appuyer la réalisation de programmes de coopération entre les deux parties axés sur trois secteurs de développement durable. Les trois secteurs de coopération se concentrent sur l'environnement, l'éducation et la santé. Le Livre bleu 2019 est un rapport annuel sur la coopération pour le développement économique durable visant à réduire les effets du changement climatique. Cette publication souligne les différentes réalisations du programme de développement en Indonésie soutenu par l'Union européenne et ses pays membres. L'attaché d'affaires de la délégation de l'Union européenne pour l'Indonésie, Charles-Michel Gurt, a déclaré que les objectifs de développement durable sont des engagements qui peuvent être adoptés par tous les pays, y compris l'Indonésie. Le ministre indonésien du Tourisme, M. Arief Yahya, a exprimé le souhait de développer Serang, Banten, en tant que destination touristique halal, parce que Serang possède le grand potentiel historique et culturel. Le ministre Arief Yahya, lors d'une visite de travail à Tanara, dans la région de Serang, a déclaré mercredi que Tanara était l'un des lieux historiques de développement de l'islam à Banten, parce que là-bas, le lieu de naissance de l'enseignant Hashim Ashari, fondateur de la plus grande organisation islamique d'Indonésie, Nahdlatul Ulama, le Sheikh Kiai Muhammad Nawawi bin Umar. Le Sheikh Nawawi a également été un imam de la grande mosquée en Arabie Saoudite. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le retour à la ville natale ». Le retour à la ville natale, ou plus communément appelé « mudik », est un terme souvent parlé à l'approche à l'Idul Fitr, après le jeûne pendant presque un mois selon le calendrier islamique. Le retour à la ville natale signifie non seulement revenir au village après si longtemps pour aller vagabonder, mais mudik signifie rentrer pour se réunir avec les parents, les proches, les voisins et aussi les amis. À cause de cela, le phénomène de mudik est un élan pour chacun de montrer son succès en partageant ses expériences pour montrer ce qui a été fait pendant le congé. Il n'est pas donc surprenant que tout le monde soit prêt à faire n'importe quoi avec n'importe quoi et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour réunir avec la famille, les parents, les amis du village. La culture de mudik n'est pas seulement la propriété des Indonésiens à majorité musulmane, mais dans d'autres pays, il existe également des rassemblements familiaux lors du jour de fête considéré comme sacré ou qui essaie d'apporter des bénédictions comme en Corée du Sud lors du jour de la fête Seolal, le nouvel an chinois en Chine, le Tet au Vietnam, Thanksgiving et le Noël en Amérique. En Indonésie, depuis le début de l'année, le gouvernement a tout préparé pour que mudik ou le retour à la ville natale se déroule bien. Presque toutes les infrastructures sont soigneusement préparées par le gouvernement. L'accélération de l'achèvement de la route APH a été réalisée en plus de l'amélioration des routes nationales sans péage. On peut déjà dire que l'amélioration de l'autoroute de Trans-Java a été réalisée de Merak à l'extrémité ouest de Java à Probolinggo dans l'est de Java. Sur l'île de Sumatra, l'accélération de Trans-Sumatra a été ressentie par la réalisation de certaines routes APH de Lampung jusqu'au sud de Sumatra. Concernant les activités de l'Idul Fitr, en marge de la réunion de coordination de la préparation de Mudik 2019 au Palais de l'État, le chef du bureau de personnel, M. Muldoko, a déclaré qu'une anticipation rapide et précise était nécessaire pour réguler le courant de retour à la ville natale, notamment sur les routes APH. Parce que sinon, la gestion professionnelle précoce, le niveau des embouteillages seront élevés aux routes APH ainsi que sur d'autres routes. Et le ministre des Transports, M. Budi Karya Sumadi, a déclaré que le pic de retour à la ville natale aura lieu vendredi le 31 mai. La préparation des agents sur le terrain doit être prête à prévenir les embouteillages et à faciliter la sécurité et le confort des voyageurs dans leur ville d'origine, telle que l'application d'un système à sens unique sur certaines routes APH et la réduction des tarifs des avions. Tandis que le ministère de la Santé ordonne à tous les centres de santé d'être en veille 24 heures jusqu'à H plus 7 ou jusqu'à l'Eid al-Fitr, tandis que la police soit en attente 24 heures sur 24 heures presque à chaque point pour assurer la sécurité dans chaque région. Espérons que le retour à la ville natale cette année sera meilleur que celui de l'année dernière et qu'il apportera des bénédictions. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia avec l'histoire d'aujourd'hui, le 30 mai. Le 30 mai 1942, la Royal Air Force a effectué un bombardement massif de la ville de Cologne en Allemagne. La Royal Air Force a effectué le premier bombardement à grande échelle de l'Allemagne à la ville de Cologne située du côté gauche du Rhin. Environ 240 hectares de zones industrielles importantes et stratégiques de Cologne ont été détruits lors d'une attaque soudaine de l'armée de la Royal Air Force. Cette attaque a marqué le début d'une attaque massive des forces alliées contre les grandes villes d'Allemagne qui a entamé la défaite de l'Allemagne et de ses alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le 30 mai 1938, Dr. Sutomo, le héros national, décédé à Surabaya. Dr. Sutomo, ou Monsieur Médecin Sutomo, est le fondateur de Budi Utomo, la première organisation de mouvement en Indonésie. En 1903, Sutomo était étudiant de médecine de School Tot Opleiding van Anlandse Artsen, ou abrégé en STOFIA, de Batavia. Sutomo et ses amis de STOFIA ont fondé une association appelée Budi Utomo en 1908. Après avoir obtenu son diplôme en 1911, il a travaillé comme médecin du gouvernement dans différentes régions de Java et de Sumatra. En 1924, Sutomo a fondé le Club Indonésien d'études, ou en langue néerlandaise, Indonesische Studieclub, à Surabaya. Il a fondé le Parti Bangsa Indonesia, ou le Parti de la Nation Indonésienne, en 1930, et Parindra, Partai Indonesia Raya, en 1935. Monsieur Sutomo est décédé à Surabaya, Java de l'Est, le 30 mai 1938, et a été enterré dans le cimetière des héros de Surabaya. Le 30 mai 2015, la Fédération internationale de football, ou abrégée en FIFA, a imposé des sanctions de blocage à l'Indonésie. Cette sanction fait suite à une querelle entre l'Association indonésienne de football de PSSI et le ministre de la Jeunesse et des Sports, ou Kemenpora. La FIFA a imposé des sanctions au motif que le gouvernement indonésien soit intervenu au football national. À la suite de ces sanctions, l'équipe nationale indonésienne et tous les clubs indonésiens ne peuvent pas participer aux compétitions officielles de la FIFA et de la AFC. L'équipe nationale indonésienne ne peut pas participer à la scène internationale pendant la période de suspension, à l'exception de l'équipe nationale aux Jeux asiatiques du Sud-Est 2015. Les joueurs étrangers ne peuvent pas non plus jouer aux clubs locaux. Les sanctions de la FIFA annulées le 13 mai 2016.
Kesungguhan hatimu itu saja. Yang ku minta darimu. itu saja.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée Situ 010616 chantée par Bayu Risa. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voynews.id. Chers amis, écoutez maintenant mon Indonésie.
Bonsoir à tous, voici mon Indonésie intitulée Le ministère de l'Environnement et des Forêts encourage le gouvernement local à construire des sites de gestion des déchets B3. Le ministère de l'Environnement et des Forêts encourage les gouvernements régionaux qui souhaitent construire des sites de gestion des déchets médicaux ou des matériaux dangereux et toxiques ou abrégés en B3. Cela a été transmis par le chef de la sous-direction de l'évaluation de la performance de gestion des déchets B3 et non B3 des secteurs des infrastructures et des services du ministère de l'Environnement et des Forêts, Edward Nixon Pakpahan, lors de la discussion sur le recyclage de déchets solides hospitaliers des hôpitaux de Surabaya, la province de Java de l'Est, samedi dernier en tant qu'intervenant. Il a indiqué qu'il existe actuellement 6 services de traitement de déchets médicaux en Indonésie. Mais la plupart d'entre elles sont gérées par le secteur privé et il n'existe pas encore de gouvernement local. Selon Edward Nixon Pakpahan, le gouvernement provincial de Sulawesi du Sud est en train de soumettre un permis de développement de la gestion des déchets B3 au gouvernement central. Edward espère que cette année, le processus de licence sera terminé. Selon lui, outre la province de Sulawesi du Sud, la province de Java de l'Est souhaite également construire des déchets B3. De plus, on a dit qu'il y a 11 tonnes de déchets médicaux hospitaliers à Java de l'Est chaque jour. Dans le même temps, Saud Marpaung, président de l'Association indonésienne des entreprises de déchets, a déclaré que l'objectif de cette discussion était de permettre aux hôpitaux de Java de l'Est de mieux gérer leurs déchets. En outre, l'Association indonésienne des entreprises de traitement de déchets envisage également de tenir tout de suite une réunion avec des producteurs et des fabricants de fluides intraveineuses et de médicaments. Ils produisent des déchets médicaux et sont donc invités à collaborer. Selon lui, la question des déchets n'est pas seulement la responsabilité de la production de déchets tels que les hôpitaux, les hôtels, les restaurants et autres, mais aussi la responsabilité de tous, y compris les producteurs qui doivent recycler leurs produits. Les producteurs ne doivent pas seulement penser à la production, mais aussi à la durabilité. Les déchets de leurs produits doivent être traités et, si possible, recyclés. C'est tout mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Sepi dan tenang, berat pelangit penuhi cahaya. ini.
Voice of Indonesia.
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Écoutez, chantée par Bung Lon. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant le magazine culturel. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé Tradition de Nuit de Selikuran. Chaque année, les musulmans attendent avec impatience l'arrivée des 10 derniers jours du mois de Ramadan pour célébrer Laylatul Qadr, dite la nuit du destin. La nuit du destin ou Laylatul Qadr est meilleure que 1000 mois. La nuit de la destinée vaut plus que 1000 mois réunis. C'est le moment que les musulmans attendent pendant le jeûne. La nuit du destin survient au cours d'une des nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Le prophète Muhammad dit chercher la nuit du destin parmi les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan, à savoir la nuit donc le lendemain correspond au 21, 23, 25, 27 ou 29 du Ramadan. En Indonésie, dans la ville Solo, il existe une tradition unique pour accueillir la nuit de destin, appelée la nuit de Selikuran. Cette tradition a lieu chaque année au palais Surakarta Hadiningrat, la ville de Solo, le 21 au soir du Ramadan. En javanais, Selikur signifie 21, de sorte que la nuit de Selikuran signifie la nuit de 21. Comme son nom l'indique, la nuit de Selikuran est une tradition du palais de Surakarta qui accueille la 21 nuit ou les 10 derniers jours du Ramadan. La tradition de la nuit de Selikuran est réalisée en faisant défiler le tumpeng avec une lampe. Le tumpeng est un plat de riz en forme de cône, comme la montagne, avec ses accompagnements tels que légumes et viande. Cette année, la tradition s'est déroulée le 25 mai avec un carnaval au départ de Kori Kamandungan lors du palais Surakarta jusqu'à la grande mosquée de Surakarta. Elle est participée par des centaines de participants. Elle se compose entre autres des fonctionnaires, des membres de la famille du palais, de la communauté et des agences de sécurité de divers éléments tels que la police et la brigade mobile. Après avoir arrivé à la grande mosquée, les participants se sont assis et ont prié ensemble. La prière n'est pas seulement destinée à la prospérité du palais de Surakarta, mais aussi à la prospérité et à la sécurité de l'État unitaire de la République d'Indonésie. Après la fin de la prière, le tumpeng est distribué aux participants et à la communauté autour de la grande mosquée. Après cela, les participants sont repartis au palais de Surakarta. Chers amis, c'était un magazine culturel intitulé La tradition de nuit de Selikuran. Merci à tous et à bientôt.
Voice of Indonesia. C'était une chanson intitulée Fidèle, chantée par Jikustik. Chers amis, écoutez toujours la voix de l'Indonésie sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voynews.id. Maintenant, nous allons vous présenter une rubrique L'Indonésie en couleur, la rubrique qui fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie. Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur le charme de Mudik 2019. Le 21 mai dernier, le ministère indonésien du tourisme a lancé /Pesona Mudik 2019 sur le bâtiment Sabta Pesona au ministère du tourisme à Jakarta. Ce programme a été lancé pour animer Mudik Lebaran où se produit un extraordinaire mouvement de population d'un territoire à l'autre en Indonésie. Lors du lancement, le ministère du tourisme a lancé trois piliers pour accueillir le Mudik, soit rentrer à la maison, Lebaran 2019. Premièrement, le concours de photos Instagram /Pesona Mudik 2019 avec un prix total de 300 millions roupias. Ensuite, le programme 10 meilleurs culinaires et 10 destinations de Mudik. Le dernier, Pesona Mudik 2019 co-branding. Catégorie du concours photo Instagram, le ministre du tourisme Arif Yahya a expliqué en participant à ce concours, les internautes peuvent capturer des moments excitants pendant leurs vacances au retour et ses fêtes de l'aide. Surtout pour les concours photo, divisés en deux périodes, la période 1 a été lancée du 1er mai 2019 au 26 mai 2019. Les catégories contestées sont culinaires et les destinations touristiques. Dans cette compétition, 150 gagnants seront choisis parmi les deux catégories. Un gagnant recevra 1 million roupias d'un pot déduit. Les gagnants seront annoncés le 30 mai 2019. La période 2 est du 26 mai au 10 juin 2019. Il existe trois catégories de compétition, culinaire, destination et événement. Cette période a également eu 150 gagnants. Chaque gagnant gagne 1 million roupias. Les gagnants sont annoncés le 15 juin 2019. Lors de ce concours de photos, les participants sont invités à créer le hashtag principal, #PesonaMudik2019. Hashtag pour la période 1 et hashtag Ramadan penuh pesona. Ensuite, hashtag pour la période 2 et hashtag Lebaran penuh pesona. Les hashtags obligatoires pour tous les participants, hashtag Pesona Indonesia et hashtag Wonderful Indonesia. Le programme intitulé 10 meilleurs culinaires et 10 meilleures destinations a été conçu pour fournir des références à la communauté à l'arrivée de la saison de retrouvailles. Cette année, on estime que plus de 20 millions font le voyage Mudik. Grâce à ce programme organisé depuis 2018, les voyageurs peuvent facilement obtenir des informations sur les culinaires et les destinations touristiques. Pour choisir les 10 meilleures culinaires et destinations, le ministère du Tourisme a recueilli des informations provenant de diverses sources, entre autres TripAdvisor, Google Maps, Google et Local Guide. Alors que le programme de co-branding incluait l'activation de campagnes sur les réseaux sociaux, le bazar du charme de Mudik. Ensuite, il existe un programme de promotion Hot Deals qui est soutenu par d'autres partenaires co-brandeurs. Il est à noter qu'il existe 10 marques co-brandeuses partenaires du ministère du Tourisme, entre autres BRI, Grab, Bluebird, Telkomsel, Traveloka, Tiket.com, Hidrococo, Rumah Zakat, GoFresh et Batik Trusmi. Voilà l'Indonésie en couleur. Mmh.
C'était une chanson intitulée « Notre amour » chantée par Sheila Majid. Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, nous continuons notre programme avec une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, nous allons vous présenter une chanson religieuse de Krisho intitulée « Quand les mains et les pieds parlent ». Les paroles de cette chanson ont été écrites par l'un des meilleurs créateurs de poètes indonésiens, Taufik Ismail, qui s'est inspiré d'une des lettres du Coran, à savoir la lettre de Yassine. Il y a plusieurs messages contenus dans cette chanson, à savoir, elle rappelle aux humains sur la mort qui est le destin de chaque être vivant, rappelle aux gens le jour de leur vengeance où tout ce qui a été fait sera récompensé par une réponse digne, rappeler aux gens sur la responsabilité de tout ce qui se fait dans le monde où un jour, il y a des jours où les humains ne peuvent plus mentir parce que tous les membres du corps peuvent parler honnêtement, y compris les mains et les pieds. Bon, serviteur, voici donc Krisho avec sa chanson intitulée « Quand les mains et les pieds parlent ». Bonne écoute, à demain.
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari
Voice of Indonesia.
sedang gelisah. Daun-daun berguguran, satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan. Semusim yang lalu sebelum ku mencapai langkahku yang pagi. Tak kuasa ku memandang datangmu matahari. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.